France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La guerre en Asie et dans le Pacifique 1942.
Le Pacifique sera le théâtre de nos opérations. Les Marines combattront les Japs sur des îles microscopiques dont nous n'avons jamais entendu parler.
L'histoire de ce Hollandais volant est devenue une légende. Au moment où la Deuxième Guerre mondiale s'approchait, il décidait de faire des milliers de kilomètres de côté et d'atterrir dans une île du Pacifique dont il imaginait qu'elle serait tranquille. Et le conflit l'y a rejoint. La légende a oublié le nom de cette île et l'histoire, celui de Kyung Jong Yang. En 1944, pendant la bataille de Normandie, il est fait prisonnier sous uniforme allemand. Et les Américains le considèrent d'abord comme un Japonais. En réalité, c'est un Coréen, suivez bien, recruté de force par l'armée impériale. Les Soviétiques l'ont fait prisonnier, ont fini par lui faire endosser leur uniforme soviétique. En 1943, il combat donc les Allemands, mais ceux-ci le capturent et le retournent. Et le voilà qui se retrouve en Normandie. Incroyable parcours. Des îles du Pacifique aux murs de l'Atlantique, c'est la même guerre, mais faite de milliers de conflits emboîtés et de millions de destins emmêlés. Anthony Beaver, bonjour.
Bonjour.
Grand historien britannique, célèbre en France par la traduction de sa guerre d'Espagne, Stalingrad, Berlin, la chute. Donc maintenant, une grande synthèse sur la Seconde Guerre mondiale chez Kalman Levy, en librairie dans très peu de jours. Il faut attendre le début de la semaine qui vient, le 10 octobre. Et votre histoire s'ouvre par le récit de la vie incroyable de ce soldat aux uniformes superposés. C'est d'ailleurs, Anthony Beaver, un des partis pris qui court tout au long de vos ouvrages. L'histoire au ras du sol, l'histoire au ras des hommes.
Oui, j'ai trouvé que c'est essentiel d'intégrer l'histoire d'en haut avec l'histoire d'en bas, parce que c'est la seule façon de démontrer les effets des décisions faites par Hitler ou Staline ou Tojo à Tokyo sur les civils et les soldats ordinaires.
Nous sommes en décembre 1941. Destin emmêlé, conflit emboîté, pendant que les Soviétiques se sentent en mesure de lancer une grande offensive autour de Moscou. Les Japonais décident d'attaquer la base US de Pearl Harbor, pas seulement Pearl Harbor d'ailleurs.
Non, la Malaisie, Hong Kong et les Philippines.
Ben oui, ils dirigent aussi leur coup sur les territoires de votre cher pays. Et voici votre cher Premier ministre, Winston Churchill, le 8 décembre 41.
I pledge the word of Great Britain.
J'ai engagé au nom de la Grande-Bretagne que si les États-Unis étaient impliqués dans la guerre avec le Japon, une déclaration britannique suivrait dans l'heure. C'est pourquoi j'ai parlé avec le président Roosevelt par la ligne téléphonique atlantique la nuit dernière, de manière à arranger un timing dans nos déclarations respectives. Je lui ai assuré que nous le suivrions immédiatement. Cependant, il est vite apparu que les territoires britanniques de la Malaisie ont également été l'objet d'attaques japonaises. Et plus tard, il a été annoncé par Tokyo, par le haut commandement japonais, et non par le gouvernement impérial japonais, mais par le haut commandement japonais, qu'un état de guerre existait avec la Grande-Bretagne et les États-Unis.
En écho, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Les conflits sont emboîtés. Tout de même, deux questions, Anthony Beaver. Staline n'informe pas Roosevelt de ce qu'il sait des intentions du Japon, lequel n'envahit pas la Sibérie, ce qui aurait pu donner une autre tonalité à la Deuxième Guerre.
Oui, la décision des Japonais d'attaquer vers le sud, vers les bases américaines, la Malaisie et les colonies britanniques, néerlandaises et françaises, c'était fait à partir de la bataille de Calkin Gol le mois d'août 1939. quand le général Joukov, son premier combat, a vraiment écrasé les forces japonaises sur la frontière de Mongolie et de Mandchourie.
Et comme il faut parler des hommes du bas et pas seulement des hommes du haut, c'est là que votre soldat est capturé par les soviétiques.
Exactement, c'était là où Yang Kyong-jong a été fait prisonnier par l'armée rouge. Mais l'effet de la bataille de Khalkhin Gol, qui n'était pas une très grande bataille, avait une influence énorme sur le cours de la guerre, parce que les Japonais ont décidé de ne pas attaquer vers le nord, vers l'Union soviétique, même que la grande majorité des militaires de l'armée de terre détestaient le bolchevisme d'une façon obsessive. Et c'était la marine japonaise qui a pris le pouvoir, si vous voulez, et a insisté sur les attaques vers le sud, vers le Pacifique.
Militarisation du pouvoir japonais, on l'entendait d'ailleurs dans l'intervention de Winston Churchill qui commençait cette émission. Tout de même, les militaires japonais ne sont pas tous convaincus de leur puissance infinie. Ils savent que la guerre doit être rapide s'ils veulent l'emporter.
Oui, bien sûr, l'amiral Yamamoto, le commandant en chef de la flotte japonaise, était très réaliste. Il savait très très bien que s'il ne pouvait pas écraser les Américains tout de suite, la puissance industrielle des États-Unis allait écraser le Japon après 2 ans de guerre.
En tout cas, pendant ce mois de décembre 1941, l'avance japonaise est spectaculaire. Voici ce qu'on projetait aux actualités cinématographiques en France, production collaborationniste parfaite. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que les autorités allemandes demandent que les lumières soient allumées dans les salles de cinéma françaises, parce qu'il pourrait y avoir des manifestations de protestation devant l'enthousiasme qui est ici proclamé par nos amis japonais.
Dès les premiers combats navals au large de Singapour, le cuirassé britannique de 35 000 tonnes, Prince of Wales, est écoulé par les Japonais, ainsi que le Ripples de 32 000 tonnes et nombre d'autres vaisseaux de guerre américains et anglais. Les débarquements de troupes nippones commencent aussitôt, attestant clairement que les Anglo-Saxons ont dès maintenant perdu la maîtrise de l'océan Pacifique. C'est d'abord Wake, Nauru, Tientsin, Shanghai, Luçon, Bornéo, Bangkok, Graf, Midway, Guam, Penang, Davao, Cebu. Enfin, Hong Kong, bastion clé de la puissance britannique en Extrême-Orient, est enlevé de haute lutte. Et déjà, les Nippons débarquent en Nouvelle-Guinée, à 100 km de l'Australie.
Hong Kong libéré de haute lutte, enfin, à vous lire, ça s'est passé plus souterrainement.
Ouais. C'est très bizarre d'écouter une voix française en louant les victoires japonaises juste après les Japonaises avaient occupé l'Indochine française.
Oui. Mais peut-être les Français étaient-ils satisfaits des humiliations que subissaient les Britanniques?
Ça, c'est sûr. Et bien sûr, Churchill était vraiment conscient de ces humiliations. Pour lui, la réoccupation de la Birmanie, bien sûr, de la Malaisie, parce que c'était la perte de Singapour qui était le plus. C'était la grande forteresse britannique à l'Extrême-Orient.
Ce qui est bien dans vos livres, Anthony Beaver, c'est les portraits que vous faites au scalpel des chefs. Alors, le général Percival en Malaisie, sa moustache bien taillée ne parvient pas à dissimuler son menton fuyant et ses dents de lapin. Et puis, dans la tête, il a quand même un esprit colonialiste, comme beaucoup de dirigeants britanniques, qui est une des explications de l'échec britannique pendant cette année 42.
Oui, les Britanniques avaient vraiment sous-estimé les soldats japonais. Ils pensaient qu'ils étaient myopes, qu'ils n'étaient pas très forts, etc. Mais les soldats japonais étaient vraiment très bien entraînés, beaucoup meilleurs que les troupes britanniques et indiennes. Et aussi, ils étaient capables de bouger très très vite dans le jungle et tout. Ouais.
Alors, on va écouter, si vous voulez bien, un extrait d'un film de propagande, mais signé de deux grands noms du cinéma. Oui. Capra et Joris Ivens, néerlandais, très intéressé par ce qui se passait dans la conquête par les Japonais des Indes néerlandaises, l'Indonésie aussi, était concerné.
Examinons le soldat japonais de base. En moyenne, il mesure 1,60 m. et pèse 53 kilos. Prenez deux soldats japonais et physiquement, il vous sera quasiment impossible de les distinguer l'un de l'autre. Son uniforme lui va mal et lui confère une allure peu martiale, parfois même comique pour un occidental. Mais il est tenace, il est compétent, il connaît son métier. Et il est fier, car au Japon, le métier des armes est une véritable consécration. On l'a préparé à devenir soldat depuis le berceau. On lui a systématiquement enfoncé dans le crâne que les Japonais étaient de descendance divine et que leur destin était de dominer la planète et ses habitants. À cette fin, traîtrise, brutalité, viol et torture sont entièrement justifiés si c'est à l'encontre de non-japonais. Au combat, son seul but est de parvenir au corps à corps avec l'ennemi. Pour le soldat japonais, il y a dans l'assaut une vertu mystique qui permet de triompher d'un adversaire mieux armé et supérieur en nombre.
Banzai, dans l'assaut, une vertu mystique, Anthony Beevor.
Oui, mais la militarisation de la société japonaise qui avait commencé pendant les années 20 a vraiment étendu jusqu'à tout le pays. Chaque appelé, jeune appelé, a été loué par sa communauté, par sa famille. Et comme beaucoup d'historiens japonais ont souligné, c'était la peur de déshonorer la communauté beaucoup plus que l'idée de mourir pour l'empereur qui avait vraiment influencé leur comportement.
La propagande japonaise explique aux pays qu'elle commence à occuper qu'ils vont faire partie d'un espace de co-prospérité. Et les soldats japonais ne sont pas toujours si mal reçus.
Au début, en certains pays, en Birmanie surtout, ils étaient très bien reçus parce qu'on pensait que ça mettrait de la fin à la colonisation britannique, etc. Mais très vite, on a trouvé que la colonisation japonaise était beaucoup plus brutale et ils ont appauvri les pays. Il y avait eu des famines après et la zone appelée la zone de copauvreté et pas de coprospérité.
Ouais. Néanmoins, quand on débarque à Jakarta, il y a un aéroport Sukarno, qui a été le leader de l'indépendance. Et ben, il a été collaborationniste des Japonais pendant la guerre.
Oui, il était
collaborationniste.
Oui. Et aussi, il y avait à Singapour, il y avait des Indiens, surtout les Sikhs, qui détestaient les Britanniques et qui faisaient partie de la police japonaise.
Espace de copauvreté, dites-vous. On entendait tout à l'heure dans le film de Capra et de Evans faire référence à la violence possible, extrême.
Oui.
Des soldats japonais, on peut dire qu'en matière de comportement avec les prisonniers de guerre ou avec les femmes, ils ont fait à peine moins mal que les Allemands.
Oui, mais ça venait de l'entraînement comme soldat. Il y avait une sorte de chaîne d'oppression, c'est-à-dire qu'ils avaient été giflés, battus, insultés par leurs sous-officiers et leurs officiers. Et pour provoquer une réaction de revanche, exercée sur les civils et les soldats d'un ennemi vaincu.
Et sur les femmes, on imagine que les femmes de réconfort, c'est un phénomène de la Corée et de la Mandchourie qui ont été occupées avant les zones qui nous concernent aujourd'hui. La Corée et la Mandchourie ont servi de laboratoire. Mm-hmm. Et c'est par dizaines de milliers, dites-vous, que les femmes de réconfort ont existé en Asie du Sud.
Ça a dépassé 100 000 femmes, selon les estimations des historiens japonais même. Mais le viol était quelque chose pratiqué en groupe et ça dépendait. Vous n'étiez pas accepté comme recrue et c'était seulement après un certain temps quand vous avez donné le droit de faire partir de ces viols.
Avril 42, 80 000 prisonniers, parlons maintenant des prisonniers américains et philippins. Nous sommes aux Philippines qui ont été capturés par les Japonais, sont traités d'une manière terrible, qui a laissé une trace indélébile, un peu comme le traitement des prisonniers britanniques en Birmanie. Deux extraits de films, The War, Ken Burns et Lynn Novick, témoignage d'un vétéran, puis l'autre, vous le reconnaîtrez.
Dès le début, ils frappaient ceux qui ne se tenaient pas droit ou qui s'asseyaient. On ignorait où on allait. Ils nous faisaient arrêter pour nous fouiller et nous cogner encore. Ils nous ont pris toutes nos affaires. Certains avaient une alliance. Ils leur coupaient le doigt pour la prendre. Ils ont vidé ma gourde pour être sûr que je n'ai rien à boire. J'ai vu des hommes enterrés vivants. Les types qui étaient tués à la baïonnette ou fusillés restaient sur la route. Et j'ai vu les camions des convois faire un détour pour leur rouler dessus. Quand 15 ou 20 camions vous passent dessus, vous ressemblez à une tomate écrasée. J'ai vu aussi des gens être égorgés, car la nuit en roulant, les Japonais pointaient leurs baïonnettes hors du camion, ce qui était juste à la bonne hauteur pour trancher une gorge. J'ai marché 6 jours et 7 nuits sans m'arrêter et sans une gorgée d'eau ou une bouchée de nourriture.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Anthony Beaver dans Calman Levy, dans peu de jours, au début de la semaine prochaine, publie La Seconde Guerre mondiale. Ah, j'aurais aimé vous faire chanter. Non.
Non.
vous faire parler d'Alec Guinness dans le pont de la rivière Kwai, ou alors des excentricités des dirigeants militaires britanniques. Il y en a pas mal qui, dans votre livre, sont campés de manière étonnante.
Et les Américains aussi.
Oui, je sais que vous voulez parler des Américains. Winston Churchill, quand même, dont le goût pour les procédures imaginatives, imprévisibles et tordues est total.
Oui, mais Churchill avait vraiment des problèmes, des pressions politiques de l'extérieur. Et ça, c'est pourquoi il a souvent voulu monter des opérations farfelues.
Mais bon, il faut parler des Américains, puisque notre sujet est la guerre. En Asie et dans le Pacifique en 1942, est dominé par les initiatives américaines qui vont finir par intervenir au printemps 1942, après les grands succès japonais. Alors ici, il s'agit d'un raid sur Tokyo organisé par Dolittle. C'est une opération plus psychologique, militaire, plutôt spectaculaire. Néanmoins...
Le 18 avril, les bombardiers américains du major James Dolittle lance un raid sur Tokyo.
Nous allons bombarder Tokyo. Ouais ! Et c'est une demande qui nous a été faite directement par le président Roosevelt.
Tokyo sera bombardé pour la première fois. L'opération va déconcerter le haut commandement japonais. Et l'amiral Yamamoto se déclare surpris, voire froissé, par cette attaque qui a été mise au point par Dolittle, un as de l'aviation américaine.
La Navy nous transportera à 600 km des côtes japonaises et c'est là que nous décollerons du porte-avions. Dès que nous aurons décollé, le porte-avions repartira immédiatement pour Hawaï.
Mais s'il n'est plus là, où est-ce qu'on va se poser, alors?
Je vais vous dire une phrase que je vous demande de mémoriser. Woshe Igo Megwajun. Ça veut dire « Je suis américain » en chinois.
C'est le film de Michel Bay. Je suis américain en chinois. Vous parlez beaucoup de langues, je peux vous demander de répéter la formule. Oui, la Chine. La Chine. Alors, il y a beaucoup d'acteurs dans la guerre chinoise. Les Japonais, leurs alliés collaborationnistes, les Chinois communistes de Mao, leur allié très problématique Staline, et les nationalistes de Chiang Kai-shek, dont vous avez plutôt tendance à dire qu'on a eu tort de les critiquer à ce point.
Je crois que l'histoire n'a pas été très gentille avec Chiang Kai-shek, mais ça, c'était au début les critiques des Américains qui ne comprenaient pas du tout vraiment les problèmes énormes, insolubles que Chiang Kai-shek faisait face. Et le général Stilwell, qui détestait Chiang Kai-shek, il l'appelait cacahuète, peanut.
Mais il y a plein de photos de lui avec Madame Chiang Kai-shek,
oui,
mais
ça c'était uniquement pour les journaux. Mais derrière cette image d'amitié, c'était vraiment une détestation mutuelle.
Les nationalistes comme les communistes pratiquent en Chine une guerre, comment dire, on ne peut pas dire de basse intensité, elle dure depuis si longtemps qu'elle ne peut pas être de haute intensité constamment, mais une guerre avec des fronts beaucoup plus amples et des mouvements beaucoup plus lents que ceux du Pacifique.
Oui, la chose qui est importante, c'est de voir les similarités entre la guerre en Chine et l'invasion de l'Union soviétique, parce que les Japonais avaient sous-estimé la capacité des armées nationalistes d'aller en retraite et de faire une guerre d'usure de longue portée. Et ça, c'était le vrai problème pour les Japonais. Ils attendaient une victoire rapide. Et ce n'est pas arrivé, un peu comme Hitler, qui n'avait pas appris les leçons de la guerre sino-japonaise.
Enfin, malgré sa vastitude, la Chine, c'est un front secondaire, finalement, en 1942. Racontez-nous comment, à partir du printemps 1942, les Américains, puisque Churchill est relégué lui aussi au second plan, organisent la riposte. À partir de quelle bataille, de quel moment ?
Il y avait très peu de riposte de la part des Anglais, parce que la bataille en Birmanie allait très très mal et il n'y avait pas vraiment le matériel de guerre pour relancer des contre-attaques. Pour les Américains, bien sûr, il y avait l'attaque de Doolittle sur Tokyo qui n'avait rien fait en termes militaires, mais qui était tout à fait symbolique. Mais pour les Américains, c'était essentiel de renforcer la marine navale américaine pour contre-attaquer et surtout avec les porte-avions, parce que c'était une guerre de porte-avions.
Alors, la bataille de Midway est engagée par Yamamoto, l'amiral japonais, parce qu'ils se rendent bien compte que les porte-avions américains, ils demeurent, ils n'ont pas été anéantis à Pearl Harbor, et ils décident d'aller les chercher à Midway. Nous sommes en juin 1942.
Oui, Yamamoto avait essayé de créer un piège en forçant la flotte américaine de sortir de Pearl Harbor pour l'attaquer. Mais heureusement pour les Américains, avec leur interception des communications de radio, ils étaient au courant que Midway était le cible de Yamamoto. Et donc, ils ont préparé leur propre piège. Et c'était un miracle, parce que la bataille de Midway était vraiment le début de la contre-attaque américaine.
Parce que le bilan, c'est 4 porte-avions japonais détruits, dites-vous, un croiseur, 250 avions japonais et en face, un seul porte-avions américain détruit.
Oui, non, mais c'était vraiment un miracle ça a vraiment commencé à changer la guerre dans le Pacifique.
Vos livres valent aussi pour les notations, presque en bas de page. Comment se comporte un équipage ou plutôt un groupe d'officiers japonais quand le bateau coule à Midway?
C'était vraiment l'honneur japonais de rester debout en saluant l'empereur et de garder le drapeau et le portrait de l'empereur avant que le bateau se coule.
Oui. Ils brandissaient leurs casquettes et liaient leur sort, dites-vous, à celui de leur navire. Comment s'organise le partage entre Anglais et Américains ? Alors, Birmanie, Chine, ce sont les Anglais. Le reste, pour l'essentiel, sont les Américains. Comment se partagent les responsabilités stratégiques entre Américains ?
Ah oui, mais ça, c'était très compliqué parce que c'était vraiment un affrontement entre égaux. Surtout le général MacArthur, qui voulait contrôler tout, bien sûr, et l'amiral Nimitz, qui était un homme vraiment admirable, qui était beaucoup plus modeste et... Mais c'était la marine américaine qui allait vraiment suivre la meilleure stratégie.
Oui, alors les marins américains imaginent qu'on va reconquérir île par île. MacArthur a une autre stratégie, il veut regagner les Philippines, au nom d'une promesse qu'il avait faite. On sent d'ailleurs, on est maintenant sur l'île de Guadalcanal, dans l'archipel des Salomon. Et en août 1942, que les soldats qui sont ici à terre, dans la jungle, dans une situation difficile, ce sont des Marines, attendent les secours de l'US Navy et pas seulement de leur bateau, à eux, l'unité des Marines.
Les Japs ont des navires qui patrouillent sans arrêt et nous arrosent toutes les nuits. La seule chose que j'ai envie d'entendre à la radio, c'est qu'un paquet de navires japonais a été coulé quelque part au large d'une île de merde qu'on appelle Guadalcanal. Mais on aurait besoin de la marine pour ça, hein, pas vrai? Alors aucune chance!
C'est bon, allez. D'accord, les Japs nous encerclent. C'est ça qui te perturbe.
John, je chie 20 fois par jour, j'ai le trou de balle comme un chou-fleur.
JP est de mauvaise humeur, Manny. Après, il va se plaindre des moustiques.
On voyait les salves et les obus tirés par les bateaux fendre l'air comme des bestioles lumineuses. On voyait les navires exploser. On ne savait pas s'ils étaient américains ou japonais. On ne savait pas qui gagnait et qui perdait. Parfois, quand un bateau sautait, le souffle faisait claquer nos vêtements, même si on était à des kilomètres de là.
Pendant qu'à des milliers de kilomètres de là, il y avait l'enfer de Stalingrad qui continuait, il y avait l'enfer de Guadalcanal.
De Guadalcanal. Et c'est très frappant la façon que les points de tournant dans la guerre de Stalingrad, de Alamein et aussi de Guadalcanal démontrent un peu que Guadalcanal était jusqu'à un certain point le Stalingrad du Pacifique.
Les crocodiles affluaient après les combats. Ils gorgeaient de chair humaine, leurs corps, les Marines, blottis dans leur position, écoutaient les bruits répugnants de leur festin dans la nuit. C'est une traduction, il faut toujours saluer les traducteurs de Raymond Clarinard, Calman Lévy, La Seconde Guerre mondiale, votre livre, dans peu de jours, sort en France. On va s'arrêter à octobre 1942, il y a 70 ans précisément. Les Japonais tentent encore d'arracher Guadalcanal. On est toujours aux îles Salomon. Mmh. On est encore, vous le permettez, au cinéma, actualité collaborationniste française.
Voici le porte-avions Hornet. France Actualité a pu se procurer ces vues sensationnelles filmées par un opérateur américain. Elles ont été prises à bord même du porte-avions pendant l'attaque de l'aviation japonaise qui, au large de Guadalcanal, devait coûter la vie à cette unité. Pendant tout le combat, le Hornet changera continuellement et brutalement de cap, mais avec témérité, les aviateurs nippons traversent le barrage de feu et n'hésitent pas à lâcher leurs bombes presque en rase-mode. Une torpille aérienne atteint la plateforme d'atterrissage. Le combat est terminé.
Enfin, on pourrait peut-être dire à cet excellent commentateur que c'est Guadalcanal et pas Guadalcanar, et que la roue commence à tourner là. Fin 42, début 43.
Absolument. Aussi bien au Pacifique comme en Europe et le fond de l'Est. Et Guadalcanal, pour les Japonais, ils ont commencé à l'appeler l'île de la mort et l'île de faim.
Il y avait une capacité d'innovation moindre chez les Japonais qui se sent à partir de ce moment-là.
Oui, ça c'est vrai. Ils ont commencé avec le meilleur chasseur, avec le Zero, mais les Américains avaient appris très vite et leur capacité d'inventer, d'améliorer leur technique et aussi bien leur matériel et leur avion était vraiment impressionnant.
Et puis Yamamoto est mort dans les combats qu'on a décrits tout à l'heure. Oui. Je ne vous fais pas dire que les chefs américains étaient meilleur, parce que vous êtes souvent réticent à donner beaucoup de qualité au chef Anthony Bigeor.
Non, il y avait quelques Américains, par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour l'amiral Nimitz, mais MacArthur, non, je crois que c'était un type épouvantable.
La Seconde Guerre mondiale en librairie le 10 octobre, merci à vous Anthony Bigeor d'avoir été des nôtres. La réalisation Jacques Sigal, Sophie Moreno et Patrick Henri, Caroline Gravert pour la préparation avec Frédéric Martin.